Bien, bonjour, bonsoir. Merci d'être nombreux pour accueillir donc Agnès Verdier-Molinier. Il va falloir que je l'explique. Que vous connaissez sans doute puisqu'elle fréquente beaucoup les plateaux de télévision pour apporter des jugements, des analyses souvent pertinentes. Je disais que nous écoutions souvent sur les chaînes de télévision les analyses pertinentes d'Agnès Verdier-Molinier sur notre monde politique et notre monde économique actuel. Elle dirige donc l'IFRAP, qui est une fondation qui s'appelle Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Vous pouvez nous dire un mot, Agnès, sur l'IFRAP avant que nous ne passions au vif du sujet.
Bonsoir à tous, merci d'être ici et d'être venus nombreux pour m'écouter ce soir alors qu'il y a Vinexpo qui nous fait une concurrence terrible. L'IFRAP, c'est tout simplement un institut indépendant qui évalue les politiques publiques, qui a été créé en 1985 par un polytechnicien, énarque, mais aussi surtout inventeur et entrepreneur, et qui a considéré que la société civile...
Et qui s'appelait ?
Bernard Zimmern. Qui a considéré que la société civile pouvait et devait s'inquiéter de l'utilisation des deniers publics. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que l'IFRAP a été reconnue d'utilité publique par le Conseil d'État en 2009. Ce n'est pas rien, parce que pour avoir une fondation qui soit reconnue d'utilité publique, il faut donner un énorme dossier au ministère de l'Intérieur. Ça passe par l'obligation de réunir 1 million d'euros, sinon on ne peut pas être reconnu d'utilité publique. Donc c'est un énorme travail qu'on a accompli avec toute l'équipe de la fondation IFRAP pour que le travail de Bernard Zimmern, le travail depuis 1985, continue, soit pérenne. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce qu'on a une équipe d'une quinzaine d'équivalents temps plein, en partie bénévoles, en partie salariés, en partie experts extérieurs, qui continuent ce travail de fond pour l'évaluation des politiques publiques de manière tout à fait indépendante, avec un financement uniquement privé, je le souligne. Ce sont des dons, pour la plupart, des dons de personnes individuelles, de personnes physiques. Il n'y a que 10% des dons de la Fondation, qui sont des dons de personnes morales, d'entreprises. Et c'est un petit budget annuel, puisqu'on est autour d'un peu plus d'1 million d'euros de budget. Donc voilà, c'est petit par rapport à l'ampleur de la tâche.
Tout ça pour dire que vous ne faites pas partie des agences et commissions et des agences multiples et variées que vous dénoncez en partie dans le livre. Alors, si vous voulez bien, on est ensemble à peu près jusqu'à 7h30. Donc, dans un premier temps, on va bavarder ensemble. J'ai posé quelques questions à Agnès. Et puis après, je vous donnerai bien volontiers la parole. Et enfin, vous pourrez faire dédicacer, ceux qui le souhaitent, vos ouvrages. Alors, un titre qui fait un peu froid dans le dos, je veux dire. On va dans le mur. On va dans le mur avec un certain nombre de sous-titres, 360 impôts et taxes, 400 000 normes et 10 500 lois, 2 millions de jours de grève en France, 103 aides sociales différentes, 618 000 élus, j'en passe et des meilleurs. Je veux dire que c'est un peu angoissant quand on arrive. Et pourtant, à la deuxième page, vous dites non, c'est un livre optimiste.
Oui, je tiens à le dire parce que quand mon éditeur m'a dit « bon, finalement, on va l'appeler « On va dans le mur », je me suis dit « c'est vrai que c'est un titre pas facile à porter ».
Un peu anxiogène.
Et en même temps, c'est ce qui ressortait de tous les rendez-vous que j'avais eus, en off, bien sûr, dans les principales grandes directions de nos administrations, notamment à Bercy, notamment à la Cour des comptes, notamment avec d'anciens ministres qui me disaient « on ne sait pas baisser la dépense publique dans ce pays, on ne le fait pas ». Et en réalité, on va continuer d'augmenter la dépense publique. Et je voulais faire un choc, en fait, avec ce titre. Réveiller un peu nos politiques, réveiller nos directeurs d'administration, nos ministères, nos gestionnaires aussi locaux, hein, parce qu'il y a une co-responsabilité dans cette dérive des finances publiques. Elle est à la fois celle de l'État, celle de la sécurité sociale. Et bien sûr, on parlera aussi du paritarisme, parce que les syndicats, à la fois du patronat et de salariés, sont forcément co-gestionnaires. Et puis, la dérive aussi des finances locales. Et tout cela donne ces 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. Juste pour vous donner une idée en comparaison avec d'autres pays, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont à 44% aujourd'hui, hein, à l'heure où je vous parle. Nous, on est à plus de 57%. Donc, c'était cette idée de dire, attention, en continuant à accumuler, en continuant à ne pas être capable de baisser la dépense, de réduire le nombre de strates, de réorganiser la France, eh bien, on risque à un moment d'aller dans le mur. Et le mur, ce n'est pas simplement le mur de la dette. C'est le mur du chômage et du déclassement de la France. Parce que vous avez bien noté que depuis le début de l'année, hein, notamment, on dit tous les astres sont alignés, le prix du pétrole baisse, l'euro baisse, les taux sont très faibles, les taux d'emprunt de la dette, on n'a jamais emprunté aussi bas, notamment sur les taux de la France à 10 ans. Et puis, on voit bien que malgré tout ça, le chômage continue de monter. Et j'ai tous les dimanches matins un débat avec un représentant de l'OFCE qui s'appelle Éric Heyer et qui dit toujours... grâce à tous ces astres alignés, le chômage va baisser. Et pour l'instant, il n'en est rien. Donc, l'idée, c'est de dire que ce n'est pas inéluctable, qu'on peut changer les choses, qu'on peut réformer la France, que ça tient à 15 objectifs que je détaille à la fin du livre.
Alors, on va y venir tout à l'heure. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est qu'effectivement, dans les rencontres que vous faites dans les ministères, que ce soit à Bercy ou ailleurs, vous rencontrez des gens qui vous disent, effectivement... sous le sceau de la discrétion et du off, on va dans le mur. D'autres qui vous disent « Ah, cette réforme serait indispensable, mais c'est impossible. »
Oui.
Hein ? Et puis voilà, c'est pas possible. Et, voilà, et on ne fait rien. Et on a l'impression, d'abord, que ceux qui savent sont convaincus qu'on ne peut rien faire, et les autres ne savent pas, et on ne sait même pas où on est exactement l'état de la France. Parce que quand vous répertoriez les 360 impôts, les 400 000 normes, les 2 millions de jours de grève, etc., on a véritablement l'impression que vous, quand vous posez les questions aux services adéquats, on vous répond, oui, peut-être, on ne sait pas, c'est pas exhaustif.
Bah, ceux qui savent...
Il y a une ignorance, on a l'impression que, pardon, avant de passer aux solutions, on a l'impression qu'il y a une ignorance des responsables, des politiques et des administrations.
Non, ils savent très bien dans quelle situation on est. Ils voient très bien, comme nous le voyons, augmenter la dépense tous les ans. Ils voient très bien que le début de ce quinquennat, par exemple, a commencé à 1150 milliards de dépenses publiques et qu'on finira à 1283 milliards de dépenses publiques. Donc on voit bien qu'en valeur, la dépense dérive. Alors après, il faut pondérer, il faut penser à la dépense en volume par rapport à l'inflation et la croissance, mais bon... En réalité, si vous réfléchissez comme un ménage, vous voyez bien que votre dépense, année après année, elle ne fait qu'augmenter. Donc ça, ils le savent très bien. Et tout ce qu'on nous dit, on économise 50 milliards, etc., ce n'est que par rapport à la hausse potentielle de la dépense telle qu'elle aurait pu augmenter si elle avait continué à augmenter sur la moyenne des dernières années. Ça veut dire qu'en gros, en plus, on est sur toujours des chiffrages qui sont complètement aléatoires. Parce qu'on peut prendre la période qui arrange. C'est ce que notamment le gouvernement a fait sur les derniers budgets, en montrant que la masse salariale, finalement, n'augmentait pas autant ou qu'il y avait des économies réalisées, mais parce qu'ils ont pris les années qui les arrangeaient et sur lesquelles on avait le plus augmenté, afin de pouvoir montrer que ça augmentait moins, que ça aurait pu augmenter. Mais évidemment, si vous retournez à 10 ans en arrière, où on avait une augmentation quand même très très forte, notamment de la masse salariale de l'État, on voit bien que là, ce n'est pas toujours les mêmes critères qui sont pris en considération. Et donc, la conscience du fait que nos dépenses dérivent et qu'on n'est pas capable de faire des économies structurelles, elle est tout à fait là. On le voit aussi sur le budget 2015, où le gouvernement joue avec la croissance potentielle pour afficher un déficit structurel plus faible et avoir moins d'économies structurelles à réaliser. Ça aussi, nous, on l'a montré à la Fondation IFRAP, on a fait tout un travail très approfondi là-dessus. Et on en parle avec la Commission européenne, on en parle avec des personnes de Bercy qui, évidemment, échangent de manière non officielle avec nous. Et donc, tout ça, tout le monde en est conscient. Parler à certains anciens directeurs du budget qui sont aujourd'hui au Conseil d'État, ils expliquent très bien toute la tuyauterie budgétaire qu'on fait en permanence pour essayer de cacher les déficits qui s'accumulent. Regardez sur l'an dernier et les années précédentes, et c'est d'ailleurs le gouvernement de Nicolas Sarkozy qui avait inventé ça, on a continué à faire des dépenses d'investissement d'avenir, les fameux programmes d'investissement d'avenir qu'on appelle les PIA, et ces programmes d'investissement d'avenir, ils sont de plus de 10 milliards d'euros par an, ils ne sont pas comptabilisés dans les 3% de Maastricht, c'est-à-dire que quand on vous dit que le déficit de la France baisse entre 2012 et 2013, en réalité, il augmente. Si vous le prenez en totalité, il augmente de 10 milliards d'euros. C'est pas rien. On passe de 74 milliards à environ 84 milliards. Donc vous voyez que tout le monde sait très bien ce qui est en train de se passer. Simplement, il y a tellement d'intérêts particuliers aussi et d'intérêts presque, je dirais, corporatistes pour ne pas changer les choses. Je le liste dans ces chapitres, finalement. C'est aussi un espèce de triptyque entre nos élus, les 618 384 élus qui n'ont pas du tout envie de lâcher une partie de leur pouvoir. Ce sont nos 100,4 millions d'agents publics qui n'ont pas du tout envie qu'on réorganise les administrations parce que là aussi, ils risqueraient d'y perdre. Mais et ce sont nos partenaires sociaux aussi qui n'ont pas envie.
Alors, pour venir des exemples précis, vous dites 360 impôts et taxes. C'est le premier chapitre. Hein. Comment arrive-t-on à prélever 69 milliards supplémentaires depuis 2008, de créer 46 nouvelles taxes depuis 2007, soit une moyenne de 7 nouvelles taxes et demie par an?
Ah oui, c'est incroyable. Mais ce n'est pas l'apanage...
Ça naît dans la tête des politiques ou dans la tête des fonctionnaires de Bercy?
C'est très simple. Je peux vous raconter une petite anecdote d'un ancien ministre, en l'occurrence Christine Lagarde, ministre des Finances, qui fait venir ses 18 directeurs d'administration autour de la table dans son bureau et certains de ses conseillers du cabinet. Et alors, elle dit, voilà, il y a un problème, on dépense trop d'argent public, il va falloir réduire la dépense publique. Donc, quelles sont vos solutions? Donc, ils parlent tous les uns après les autres. Ils sont brillantissimes. Hein. Ce sont nos meilleurs cerveaux des grands corps de l'État. Et alors, ils font tous des exposés extraordinaires. Et vient le dernier. Et puis, un des conseillers qui n'est pas des grands corps de l'État, qui n'est pas inspecteur des finances, se permet de lever la main et dit « Mais je ne comprends pas, vous n'avez fait que des propositions d'augmentation d'impôts. » la ministre dit « Ah oui, mais c'est vrai, ça... Et il n'y a pas eu une proposition de baisse de la dépense. » Et alors, il recommence le tour de table. Et celui qui avait duré 2 heures précédemment dure 20 minutes. Voilà. Parce qu'il n'y a pas dans la programmation aussi de notre élite des grands corps de l'État cette idée qu'à un moment, ils vont être confrontés à devoir réduire la taille de l'État, la taille des collectivités locales, de réduire le poids du système public, parce que finalement, ils ont été formés pour l'augmenter. Et aujourd'hui, ce qu'on devrait apprendre à l'ENA, c'est des cas de coupes drastiques dans les finances publiques. Hein. C'est ça qu'on devrait apprendre. C'est des cas pratiques de réduction de la dépense. Et ce n'est pas encore ça qu'ils sont en train de faire. Je pense que ça va évoluer, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis optimiste, et c'est aussi pourquoi j'écris ces livres, c'est pourquoi je dirige cette fondation pour essayer de faire bouger les choses de manière concrète. Eh bien, ce qu'on voit, et on l'a vu sur les plans Fillon 1 et 2 aussi hein, précédemment, parce que ce n'est pas simplement la gauche qui augmente la dépense publique, sous les plans Fillon 1 et 2, qui étaient des plans appelés de réduction et d'économie, plans d'économie, il y avait 90% d'augmentation de taxes et d'impôts. Donc, chaque fois qu'il y a un problème d'équilibre des comptes publics, on crée 2 nouvelles taxes, cotisations et impôts. Et pourquoi j'ai voulu publier absolument dans ce livre la liste totale de ces impôts, c'est parce qu'elle n'existait pas. Quand j'ai commencé à rédiger chapitre...
C'est la question que je vous posais. Est-ce qu'eux-mêmes se rendent compte de l'entassement des taxes?
Là, en l'occurrence, je pense qu'ils pratiquent un peu...
Ils ne veulent pas le dire ou
non,
vraiment ils ne le savent pas?
Je pense qu'ils cachent un peu ça sous le tapis parce qu'à aucun moment, dans aucun rapport public, vous n'avez la liste totale des impôts, taxes et cotisations. Et le chiffre qui circulait, moi que j'ai consulté hein, à l'époque quand j'ai commencé à rédiger ce chapitre sur Internet, c'est 174. Voilà. Et puis, sur tous les documents budgétaires, vous avez toujours une ligne « autres impôts ». Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que la Cour des comptes et Bercy... Bon, pas officiellement, mais les personnes que je connais bien à l'intérieur de ces deux organisations m'ont dit non, ça n'existe pas. Donc on est reparti avec mon équipe d'une feuille blanche pour refaire la liste totale et on est arrivé à 360, presque un par jour. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer avec les autres pays et de voir que finalement, là où on est à 360, les autres sont à une centaine ou à 70. Voilà. Les Britanniques sont autour de 74 taxes. Hein. tout compris, y compris les cotisations. Et donc, on est vraiment champion de, pour
empiler. Donc, ça veut dire qu'on peut y arriver, si on veut supprimer les
bien
taxes.
Bien sûr, on peut y arriver. Mais ça demande, par exemple, un truc tout simple. Quand vous comparez pro forma la situation d'une entreprise...
Est-ce qu'on peut faire machine arrière ou est-ce que c'est irréversible? Est-ce qu'on peut réduire? Parce que vous proposez d'ailleurs à la fin de ce chapitre, parce qu'à la fin de ce chapitre, vous faites aussi quelques propositions justement de solutions. Est-ce qu'on peut se dire on va passer de 360 à 100?
Oui, parce que regardez la situation d'une entreprise britannique ou d'une entreprise allemande. Elle ne va pas avoir les impôts sur la production que nous avons. C'est-à-dire toutes ces taxes locales, l'équivalent de ce que s'appelait avant la taxe professionnelle qui est devenue la CVAE, l'IFER, etc. Tout ça, c'est payé sur la production. C'est-à-dire qu'avant même que vous ayez réalisé 1 euro de bénéfice, vous êtes taxé. Ça n'existe pas ailleurs. Ailleurs, c'est taxé au niveau du résultat, au niveau de l'impôt sur les sociétés. Donc toutes ces taxes, et il y en a à peu près 70, il faudrait les faire remonter au niveau de l'impôt sur les sociétés. Mais évidemment, personne n'a véritablement envie de le faire. Pourquoi ? Parce que ce sont les collectivités locales qui sont financées en grande partie par ces taxes. Et si on leur dit, vous allez avoir une partie arbitrable de l'IS à l'intérieur du taux d'IS qui vous sera décerné, eh bien c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faudra que les entreprises soient bénéficiaires pour les payer. Et ils ne sont pas certains que les entreprises soient bénéficiaires. Donc, vous voyez, c'est un peu un système où on préfère prendre l'argent avant de savoir si l'entreprise va avoir des résultats en positif, plutôt que...
C'est toujours ça d'assurer, quoi.
Absolument. Mais alors, quand vous comparez une grosse PME, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des ETI, mais en gros, c'est une grosse PME, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, sur la même entreprise, vous allez avoir 1 million de taxes sur la production et 500 000 au Royaume-Uni, 50 000 au Royaume-Uni et 50 000 en Allemagne. C'est-à-dire là où nous, on paye 1 million en taxes sur la production, eux, c'est 50 000 euros.
Donc on comprend bien que c'est un frein à l'industrie, à l'entreprise.
Mais le paradoxe, c'est que chaque fois qu'on compare, on dit « Ah bah tiens, on va comparer les taux de cotisation. Oh mais oui, mais finalement, sur l'industrie, le coût du travail, bon an, mal an, entre la France et l'Allemagne, il n'est pas si éloigné. Puis alors, on va comparer les taux d'IS. Ah oui, c'est vrai, on est supérieur, mais finalement, avec les exonérations, les abattements, les déficits reportables, etc., peut-être qu'on n'est pas si mal lotis. Mais jamais on parle de toutes ces taxes sur la production qui impactent directement la vie de nos entreprises et leur rentabilité. Et ça, s'il y a bien quelque chose à faire d'assez simple, c'est de remonter toutes ces taxes au niveau du résultat. Et je pense que ça permettrait aussi, notamment... en ce moment, on est en train de réfléchir énormément sur la question des régions, du rôle des régions, du financement.
Et j'allais vous dire, ouais. J'imagine que les collectivités territoriales ont aussi leurs responsabilités dans cette affaire.
Oui, et je pense qu'il faut les responsabiliser. Parce que, vous voyez, le paradoxe, par exemple, c'est qu'on est en train de dire la responsabilité de l'attractivité économique, c'est la région qui doit la porter. Mais en même temps, quand vous regardez les recettes fiscales qui sont données, enfin, que l'État a accepté de donner aux régions, c'est finalement... les cartes grises, les permis de conduire, il n'y a rien à voir avec la question entrepreneuriale. Non, mais la question de l'entreprise, c'est-à-dire la CVAE, l'IFER, etc., ça finance. Donc les taxes vraiment qui sont liées, les taxes économiques, ce qu'on appelle les taxes économiques, elles sont plutôt données aux départements et aux intercommunalités. Et finalement, on dit, vous êtes responsable de l'attractivité économique, mais à aucun moment, vous ne pouvez décider de baisser des taux qui affectent la vie de l'entreprise. Donc, je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à une fiscalité qui est en rapport avec les missions publiques qui sont menées. Donc, la semaine prochaine, je serai intervenante à l'Association des régions de France, invitée d'ailleurs par Alain Rousset, qui est le président de la région Aquitaine et aussi le président de l'association des régions de France. Et je pense qu'à un moment, il faut pouvoir leur dire que cette fiscalité, ce qui pèse sur nos entreprises, il faut que les régions en pilotent une partie. Et ce n'est pas si compliqué que ça, parce que les recettes fiscales des régions, c'est 13 milliards. Les recettes fiscales, notamment venant des taxes sur tout ce qui est économique pour les départements, représentent à peu près peu ou prou le même montant. Donc on pourrait très bien basculer entre départements et régions. Mais ça demande des grosses réformes de fond.
Oui, et bon, on verra tout à l'heure qui peut les faire et y en a-t-il un qui serait prêt à les faire. Dites-moi, ça freine l'activité industrielle des entreprises, mais ça freine aussi finalement l'envie d'investir des particuliers. Parce que je prends un chiffre, là, vous dites, pour un acheteur en France sur l'immobilier, sur un acheteur en France, les taxes et impositions s'élèvent à 56% du prix d'acquisition à la revente, 10 ans après, c'est ça ?
C'est ça.
Contre une moyenne de 20% ailleurs en Europe.
Bah oui, c'est tout le...
Donc tout le monde est touché.
C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire qu'on dit « Ah oui, c'est terrible, il n'y a pas de transactions immobilières, etc. » Et puis, quand on achète un bien immobilier, le montant qu'il faut verser en ce qu'on appelle les frais de notaire, mais abusivement, parce qu'en fait, ce sont les droits de mutation à titre onéreux, et ils sont versés pour la plus grande partie aux départements, qui se sont d'ailleurs mis pour la plupart au taquet du taux qu'ils pouvaient atteindre avec l'accord de l'État. Donc... Vous voyez, là, tout le monde est content de récupérer une manne soi-disant facile à obtenir, mais là, on obtient un effet l'affaire, c'est-à-dire un effet de plus vous taxez, moins les gens ont envie finalement de revendre et de racheter, parce que à chaque fois, il y a tellement de DMTO à payer que ça devient dissuasif.
Donc, faut le dire, DMTO.
Droit de mutation à titre onéreux. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, chaque fois que vous payez vos frais de notaire, il y a une toute petite partie qui va au notaire. On a beaucoup parlé des notaires avec la loi Macron, c'est assez amusant. Et moi, j'ai regardé le rapport de l'Inspection Générale des Finances sur notamment la partie notaire, et on leur reprochait d'avoir une rémunération qui avait augmenté de plus de 100% dans les... ou 150% dans les dernières années, sur une période d'ailleurs qui était la période vraiment du boom immobilier, hein, puisque ça s'arrêtait à peu près en 2010. Donc c'était 2005-2010 qui était étudié. Ben, sur la même période, les recettes de DMTO ont augmenté de 189%. Donc il faut pas s'étonner que la part du notaire qui est proportionnelle en fait au DMTO, au droit de mutation que vous payez en taxes à chaque fois que vous achetez un bien, ait augmenté. Donc là, c'est aussi un peu un paradoxe permanent de reprocher aux uns d'avoir récupéré plus en revenus, alors qu'en réalité, c'est fondé en grande partie sur l'augmentation de ces droits de mutation à chaque fois que vous achetez ou que vous vendez un bien. Et là, c'est, je crois, aussi une des raisons pour laquelle aujourd'hui, on a un marché de l'immobilier qui ne se débloque pas en ce moment. Alors après, on peut toujours râler, mais si on baissait ces fameux droits, il est vraisemblable qu'on aurait plus d'échanges, plus de transactions.
Alors, disons un mot sur la fonction publique. 5,3 millions d'agents, 262 milliards de masse salariale. Ça fait froid dans le dos, hein. c'est ahurissant.
Oui, on est champion là aussi, hein. On est à plus de 13% de dépenses de masse salariale publique par rapport à la richesse nationale. Et la plupart des pays qui sont comparables à la France, ils sont plutôt autour de 9,5-10%. Hein, donc on est vraiment, là, on surperforme largement nos voisins. Alors on peut toujours essayer de nous comparer avec le Danemark, etc. Mais bon, ce sont quand même des pays qui sont beaucoup plus petits. Et je pense qu'il vaut mieux essayer toujours de se comparer avec les Allemands et les Britanniques qui ont à peu près des populations... Bon, surtout pour le Royaume-Uni, évidemment, mais comparable à la nôtre. Et là, on voit bien que si on compare avec les autres pays, on a 700 000 agents supplémentaires sur l'ensemble des trois fonctions publiques. Et ce n'est pas seulement la fonction publique locale. Hein, la fonction publique hospitalière a beaucoup augmenté. Hein. Si je prends 1980 à nos jours, on était à peu près à 600 et quelques mille agents. On est à 1 153 000 aujourd'hui. Donc vous voyez l'évolution du nombre d'agents qui ont été embauchés dans les hôpitaux. Et il n'est pas, c'est pas complètement décorrélé de la question du temps de travail à l'hôpital qui est en train d'être évoqué aujourd'hui, hein, mais qui était complètement tabou encore il y a quelques temps, par Martin Hirsch, notamment sur l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et j'ai eu beaucoup de débats, notamment avec la CGT, sur ce sujet.
Il faut bien dire que c'était le seul secteur où il était complètement aberrant d'appliquer 35 heures.
Lionel Jospin a été auditionné il n'y a pas très longtemps à l'Assemblée nationale et il a dit quelque chose de très bien là-dessus. Il a dit vraiment, on a fait une erreur d'appliquer les 35 heures à l'hôpital.
Ah oui.
Et c'est bien qu'ils le reconnaissent. Alors évidemment, c'est un peu tard, Mais c'était d'ailleurs pas
Pour une fois qu'un politique reconnaît son erreur.
Voilà. Mais c'était pas du tout son avis au début. Au début, il ne voulait pas appliquer les 35 heures dans le public. Hein. D'ailleurs, il y avait plusieurs rapports qui avaient été commandés par le gouvernement à l'époque et qui avaient conclu qu'il ne fallait surtout pas les appliquer dans le secteur public. Parce que ce qui était recherché avec les 35 heures, c'était de gagner en productivité dans le secteur privé et de créer de l'emploi dans le secteur privé. Ce n'était pas forcément de créer plus d'emplois dans le secteur public. Moi, les estimations que j'ai faites avec mon équipe de la Fondation IFRAP, c'est qu'on a créé peu ou prou 400 000 emplois à cause des 35 heures dans le public. Et ce que je voudrais dire aussi, et qui est quand même très très important, c'est qu'il y a beaucoup de collectivités locales, notamment par exemple le département de la Gironde, puisqu'on est en Gironde aujourd'hui, qui ne sont pas aux 35 heures. Hein. En Gironde, les agents ne sont pas aux 35 heures. Ils sont à moins. D'accord ? Et ça...
Pour 32, je crois.
Alors, je vous
32,
donnerai
33.
le chiffre à la semaine. Je ne peux pas vous le donner exactement, mais le chiffre à l'année par rapport aux heures qu'ils devraient faire, les 35 heures, c'est 1607 heures. Et en Gironde, on est à 1550. Mais très nombreux sont les départements, les intercommunalités, les communes et les régions où les agents ne sont pas aux 35 heures. Étrangement, alors qu'on a quand même beaucoup de statistiques sur la gestion publique, et alors que nous avons récupéré à la Fondation IFRA pendant des mois tous les bilans sociaux, alors, je ne sais pas si vous savez, mais tous les deux ans, les collectivités locales et les hôpitaux sont tenus à réaliser des bilans sociaux, c'est-à-dire qu'ils donnent le nombre de jours d'absence, le nombre d'agents, etc., etc. Dans aucun bilan social ne figure le nombre d'heures légales négociées avec les syndicats. Et là, on a récupéré sur la centaine de départements que compte la France uniquement 11 chiffres du nombre d'heures travaillées légalement par les agents dans les départements. Hein. Donc là, on a un vrai sujet parce que c'est des milliards qu'on pourrait économiser potentiellement rien qu'en remettant les agents aux 35 heures, je ne parle même pas des 39 heures. Hein. Et je ne parle même pas de l'absentéisme. Là, je parle simplement des heures légales travaillées par an. Et ça commence à sortir parce qu'on a tellement publié sur ce sujet qu'il y a eu des papiers dans les Échos, qu'on a eu au Journal de France 2. Et d'ailleurs, ils nous en ont voulu pour ça, mais pas France 2, mais sur Internet, ils se sont déchaînés sur le sujet. On a eu toute une infographie qui montrait les temps de travail dans les différents départements.
Parlez-nous du parti fini. Moi, je trouve ça formidable. Je n'ai rien contre les éboueurs qui font un métier pénible et difficile. Et on parlera de la pénibilité, là aussi, tout à l'heure. Mais le parti fini, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand on le découvre, oui, y a des gens qui connaissent, qui savent de quoi il s'agit. Mais c'est extraordinaire parce que vous avez un chapitre où vous parlez justement aussi des nouvelles règles qui ont été accordées à Béziers, par exemple, que l'administration octroie, on ne sait pas pourquoi, une demi-journée de repos hebdomadaire à tous les agents, y compris les cadres. Et puis le fameux parti fini à Marseille, notamment à Marseille.
Oui, c'est ce que j'explique dans mon chapitre hein, sur le nombre d'agents. Où, en réalité, au lieu de travailler 7 heures, les agents finissaient par travailler 3h30. Et on comprend pourquoi les camions poubelles roulent extrêmement vite, notamment à Marseille, mais aussi ailleurs, pour pouvoir être libérés du travail à accomplir. Mais ce qu'on a montré aussi, c'est qu'il y a une vraie grosse difficulté sur le taux d'absence des agents, qui est absolument considérable. On l'a montré sur Montpellier. Hein, on est à 39 jours d'absence par agent et par an. Donc, c'est quand même très, très, très important. Si on rajoute à ça les RTT, qui sont d'une vingtaine de jours, les jours du maire et les jours de congé, on l'avait additionné, on est à 92 jours sur la totalité de l'année. Et j'étais interviewée il n'y a pas longtemps par la BBC sur ce sujet, et ils ne voulaient pas me croire. Mais ce n'est pas nous qui avons fait le calcul, c'est la Chambre régionale des comptes qui a fait ce travail sur Montpellier et qui a montré cela. Donc, ce sont des rapports aussi officiels qui pointent ce problème. La région Aquitaine, pour citer aussi un chiffre, on est à plus de 30 jours d'absence par agent et par an en région Aquitaine, alors même qu'Alain Rousset est quand même réputé pour être un bon gestionnaire. Donc, là aussi, on a quelque chose à faire. Et quand certaines collectivités locales veulent mettre en place des primes de présentéisme des agents, eh bien, elles se font retoquer au Conseil d'État sous prétexte que ce n'est pas en accord avec le statut de la fonction publique. Et donc, je crois que sur le long terme, on ne fera pas l'économie de sortir du statut. En tout cas, à mon avis, les premiers qui sortiront, ce seront les collectivités locales. Parce qu'il y a de plus en plus, notamment de maires, mais aussi de présidents de conseils départementaux ou de présidents de conseils régionaux qui se rendent compte, et les DGS aussi, les directeurs centraux, généraux des services, qui voient qu'ils ne peuvent plus gérer leurs agents et qu'ils ont des tels taux d'absentéisme que c'est plus gérable au quotidien.
Et qu'est-ce que vous pensez des jours de carence ?
Alors, le jour de carence, c'était nous qui l'avions fait passer à l'époque sous le précédent gouvernement. Et j'en avais parlé avec un député qui m'avait dit « Ah, mais il faut absolument le faire voter ».
Pour rappeler en deux mots, en tout cas, il s'agit pour que tout le monde.
En deux mots, l'idée, c'est d'avoir, comme dans le secteur privé, et là, il y a 3 jours de carence dans le privé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, par les conventions collectives, qui prennent en charge ces jours. Donc, ces 3 jours, ce sont 3 jours qui ne sont pas rémunérés quand vous êtes en arrêt maladie. L'idée, c'était de faire la même chose dans la fonction publique. Donc, l'amendement qui a été adopté à l'époque, c'était un amendement qui disait, je crois que de mémoire, c'était en 2011, qui disait, en gros, on fait chaque arrêt de travail un jour de carence, un jour non rémunéré. Alors, évidemment, ça changeait beaucoup parce que l'État ou les collectivités, dans la plupart des cas, sont leur auto-assureur pour les arrêts maladie. Donc, il n'y a aucune perte de rémunération et il n'y a aucune paperasse à remplir, si vous voulez. Dans la plupart des cas, enfin, dans de nombreux cas, il n'y a même parfois pas de justificatif à donner ou même les arrêts maladie n'étaient pas toujours demandés. Alors ça commence à changer, heureusement. Et là, ce jour de carence, il a été très très mal vécu par les syndicats. Et quand François Hollande est arrivé au pouvoir avec Marie-Lise de Branchu, ils ont décidé, puisqu'ils continuaient à geler le point d'indice, de faire sauter ce jour de carence. Alors ça a été quand même assez épique, parce qu'à ce moment-là est sorti tout à fait par hasard, évidemment, une étude de la DARES qui montrait qu'il n'y avait pas du tout de différence entre le taux d'absentéisme dans le public et dans le privé, alors que c'est faux. Et donc, j'ai eu ce débat avec la ministre en lui disant « Mais quelle est la cohorte qui a été prise en considération? Qui sont les gens qui ont été interrogés pour le public ?» Elle ne m'a jamais répondu. Le journal Le Monde n'a pas réussi à avoir plus de réponses. Hein. Et donc, on ne sait pas du tout comment ils ont fait leur étude. Mais c'était pour essayer de faire passer la pilule que le jour de carence allait être supprimé. Ceux qui sont le plus montés au créneau, et ça a été vraiment très intéressant à ce moment-là, c'est la Fédération hospitalière de France. En fait, la réunion de tous les directeurs d'hôpitaux qui étaient furieux de la suppression de ce jour, parce que ça leur avait permis de faire énormément d'économies, des millions d'euros d'économies. Et là, on voit aussi que c'est encore une fois la Fédération hospitalière de France qui pousse derrière Martin Hirsch sur la question des 35 heures. Parce qu'aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux ont une marge de manœuvre qui est très, très, très ténue par rapport à la motivation de leur personnel. Et tout est réglementé, régenté au niveau du ministère. Et ça, ce n'est pas possible pour manager des équipes et les motiver aussi, mieux rémunérer ceux qui travaillent mieux, etc. Et ça, c'est vraiment un problème aujourd'hui dans le management des équipes publiques.
Passons, disons un mot maintenant, venons-en au problème qui touche tout un chacun et dont tout un chacun a au moins un exemple en tête, c'est la sécurité sociale, les 100 000 mandats paritaires de la sécurité sociale, c'est les caisses de retraite et les nombreux statuts des retraités. Il y a combien ? 37 ?
Il y a 37 régimes
37
de retraite
régimes,
différents.
Oui. Régimes, 37 régimes différents de retraite. Et là aussi, on peut faire quelque chose si on veut ?
On peut faire quelque chose, mais ça demande aussi de faire une réforme systémique. Et ça, la réforme systémique, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça veut dire qu'il va falloir réunir dans un même système l'ensemble des retraités, que ce soit les retraités du public, les indépendants, etc. etc. Et là, c'est un sujet. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a des modes de calcul pour les retraites de base et les retraites complémentaires du secteur privé qui sont bien défavorables par rapport à ceux du public. Donc, tous les rapports du COR, donc c'est le Conseil d'orientation des retraites, et on en a eu encore un la semaine dernière, sont censés montrer qu'on a à peu près les mêmes taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est le pourcentage que vous avez de votre dernier salaire quand vous arrivez à la retraite. Tous ces rapports montrent, soi-disant, que les taux de remplacement sont à peu près identiques, etc. Mais évidemment, les retraités, notamment de l'État, ne veulent pas du tout avoir les mêmes modes de calcul que les retraités du privé. Donc nous, on a fait le test sur 8 cas types qu'on a extrapolés sur l'ensemble de la fonction publique d'État. Ces 8 cas types, c'était des cas qui avaient été étudiés par le Conseil d'orientation des retraites. On a fait une étude de micro-simulation là-dessus. On leur a appliqué à tous les modes de calcul du privé. Et là, on a vu qu'on pouvait économiser 4 milliards d'euros par an sur les retraites. Hein. Ce que vous ne savez pas, et on en a beaucoup parlé à la dernière émission « Assez dans l'air », là, où j'étais intervenue il n'y a pas très longtemps, et même Philippe Frémaux d'Alternative Économique reconnaissait que c'était un problème. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut négocier sur les retraites complémentaires parce qu'on ne va plus avoir de réserve en 2018 et un peu plus tard pour les cadres et pour les non-cadres. Donc, dans les prochaines années, il n'y a plus de réserve et il y a un risque que les complémentaires s'effondrent. Mais le problème, c'est qu'on ne nous parle jamais du déficit des retraites de nos agents de l'État. Et tous les ans, ce sont nos impôts qui, en plus des cotisations, vont financer en plus les retraites en question. Le taux de cotisation de l'État, il est passé de 62% il y a quelques années à 75% aujourd'hui, hein, alors qu'il est de 15% pour le taux employeur pour le privé. Donc là, il y a quelque chose à faire, c'est cette réforme systémique, avec un système par points, en s'inspirant un peu du système à la suédoise. Je crois qu'on peut y arriver. Simplement, il faut éviter de faire ces mini-réformes des retraites comme on a fait ces dernières années. En 93, en 2003, en 2010, à chaque fois avec cette idée qu'on pourrait très bien retourner à la retraite à 60 ans. C'est faux. Là, c'est une hérésie totale. Il va falloir repousser l'âge de départ. On vit plus longtemps. Et il faut aussi qu'il y ait une solidarité entre les générations. Et que les générations qui arrivent à la retraite dans les prochaines années soient solidaires de ceux qui vont cotiser et qui vont être les jeunes actifs d'aujourd'hui et de demain. Donc là, il y a un vrai, vrai, vrai problème. Il est gigantesque parce que c'est 276 milliards de dépenses annuelles, hein, les retraites. C'est un gros, gros, gros morceau de la dépense publique. La plupart des pays ont réussi à réformer, mais chez nous, ça reste encore tabou parce qu'il y a tous ces régimes différents et parce qu'il y a aussi un coût de distribution des retraites qui est absolument gigantesque. Là, les partenaires sociaux n'ont pas du tout envie de supprimer les retraites complémentaires parce que ce sont eux les gestionnaires. Et ça leur permet aussi d'avoir des financements pour les syndicats qui sont non négligeables. C'est peut-être pas des centaines de millions d'euros, mais néanmoins, ça permet de faire marcher les centrales à Paris, la plupart des syndicats, avec tous ces financements qui arrivent de ce qu'on appelle le paritarisme. Ce que j'explique dans mon chapitre, et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, 100 000 mandats paritaires. Autant de forces de blocage dans les caisses d'allocations familiales.
Dont 68 000 seulement, vous dites, sont vraiment identifiés.
Oui. Jamais réussi à obtenir le vrai chiffre. Quand je dis 100 000 mandats paritaires, c'est une estimation. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Je suis allée voir le MEDEF, les syndicats, pas mal d'associations qui travaillent sur la question syndicale depuis de nombreuses années. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces mandats paritaires, ce ne sont pas des mandats qui rapportent de l'argent à ceux qui siègent à l'intérieur des conseils en question. Mais ce sont autant de forces de blocage pour ne pas fusionner les caisses. Aujourd'hui, par exemple, une caisse primaire d'assurance maladie, vous n'avez pas forcément besoin qu'elle soit au niveau du département. Ça pourrait très bien être des caisses régionales, voire vous pourriez très bien être affilié à une caisse qui serait dans un endroit totalement différent de là où vous vivez. Pourquoi ? Parce que finalement, plus personne ne se rend physiquement au guichet de sa caisse primaire d'assurance maladie. Et je fais souvent le test de savoir combien de personnes sont allées dernièrement dans leur caisse primaire d'assurance maladie. Il n'y a quasiment personne qui s'y rend. Là-dessus, quand on veut fusionner deux caisses primaires d'assurance maladie, eh bien, souvent, ce sont les syndicats qui bloquent parce qu'ils ne veulent pas perdre leur mandat et la gestion de leur caisse. Et ça, c'est un problème. Par ailleurs, il y a une vraie opacité, encore plus grande que celle des collectivités locales, parce que pour récupérer les comptes d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une CAF, c'est quasiment impossible. Ils ne sont pas publiés. Et moi, j'ai eu l'occasion de les demander plusieurs fois, et je reçois à ce moment-là des coups de fil de la directrice, notamment, de la Caisse nationale d'assurance maladie, me disant « Mais qui êtes-vous ? Pourquoi demandez-vous les comptes ?»
Pas de menace de mort, quand même.
Non, mais en gros, c'est circuler, il n'y a rien à voir. On ne veut pas donner les comptes. On ne veut pas pouvoir comparer les bonnes pratiques. Parce que ce qu'on fait sur les collectivités locales, finalement, c'est dire, voilà, là, il y a des bons gestionnaires, il y a des moins bons, et on pourrait s'aligner sur les meilleurs. Si on fait la même chose pour les CAF et les caisses primaires d'assurance maladie, là aussi, il y a beaucoup d'économies à faire. Mais si on a les comptes, on peut faire ces ratios, on peut montrer quels sont les bons gestionnaires, quels sont les mauvais. Et ça, ils n'ont pas du tout envie.
Bien, on pourrait donner beaucoup d'autres exemples sur le chapitre du social, l'empilement des aides, les régimes spéciaux, vous l'avez dit, le statut des personnels, etc. Et vous le traitez, c'est invraisemblable et inimaginable. Je veux dire que j'ai découvert des choses totalement incroyables. Et vous dites à un moment, ne pas travailler peut rapporter presque autant qu'un SMIG, ce n'est pas imposable. Donc bon, je vous en renvoie à ces chapitres. Je voudrais qu'on passe
très brièvement là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut rendre imposable justement le cumul des aides sociales. Et ça, c'est fondamental parce que toutes les études sont biaisées sur ces questions. Parce que finalement, quand on compare les taux d'imposition sur les ménages les moins aisés et les ménages les plus aisés, on voit que on est toujours sur les revenus imposables. Et donc finalement, on dit, bah oui, mais tout le monde paye beaucoup d'impôts. Et finalement, c'était des travaux de Piketty qui montraient que les déciles qui étaient les moins riches payaient autant, voire plus que les déciles les plus riches. Et ça, c'est faux. Donc, comme dans d'autres pays, les aides sociales doivent rentrer dans le net imposable. Et ensuite, ça nous permettra aussi de voir quels sont les foyers qui touchent des aides sociales cumulées. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas fusionner ces aides et les verser en une seule fois? Et je le montre par une personne, c'est un vrai cas concret, une personne qui s'appelle Jeannette, qui est une personne handicapée, qui touche par 3 ou 4 guichets différents. Et on voit aussi que les organismes n'ont pas du tout envie de se regrouper pour rentrer dans une certaine simplicité, mais un coût moins important. On dépense 35 milliards d'euros par an, rien que pour distribuer les aides et les dépenses de protection sociale. On pourrait économiser 10 milliards, entre 6 et 10 milliards sur cette dépense-là. Donc, ça demande de fusionner les organismes, de fusionner, par exemple, la part sociale, la moitié des dépenses des départements, ce sont des dépenses sociales, avec les caisses d'allocation familiale, avec les centres communaux d'action sociale. Mais ça demande de la coordination entre les différents acteurs. Et ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on n'admet pas dans le privé, c'est-à-dire la concurrence, on l'admet très bien dans le public. Il y a beaucoup de concurrence entre les différents organismes publics qui veulent s'occuper tous de la même chose. Et ça, on le paye sur la qualité des services publics, sur l'évaluation de ces services publics et sur la simplicité d'utilisation. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire de très important et aussi de plafonner et peut-être le demander aux Français par référendum à combien ils veulent plafonner les aides sociales par foyer et par mois. Voilà, les Britanniques l'ont fait à 500 livres par semaine. C'est un maximum, ils ne donnent pas plus.
Alors, on pourrait parler pendant des heures de cet aspect du secteur social. Avant, je voudrais qu'on passe après aux élus et aux collectivités locales et territoriales, et puis qu'on dise un mot de l'éducation. Mais avant, je voudrais que vous me disiez comment on peut dire qu'il y a entre 3 et 5 millions de chômeurs.
Ah oui.
C'est quand même pas la même chose, entre 3 et 5 millions.
3,5, c'est le nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ce sont les personnes qui n'ont pas du tout d'emploi. Ensuite, vous avez des catégories B, C, D, qui sont autant de différentes catégories de chômeurs qui travaillent un petit peu, travaillent quelques heures, ont déjà un emploi mais recherchent un emploi, etc. etc. Et là, vous arrivez à 5 millions au total. Et on les a même dépassés dernièrement. Mais
alors le vrai bon chiffre, c'est quoi? C'est 3 millions ou 5?
Le vrai bon chiffre de personnes qui ne travaillent pas du tout, c'est 3,5. Le chiffre de ceux qui, en fait, travaillent très peu d'heures et voudraient trouver un autre emploi, c'est autour de 5 millions. Après, on peut toujours dire aussi qu'il y a certaines personnes qui ont arrêté de chercher et qui aimeraient bien quand même travailler. Donc, c'est très difficile d'avoir le bon chiffre. Après, ce sont des standards internationaux. Aujourd'hui, le chiffre de personnes n'ayant aucun emploi, c'est 3,5.
Et vous dites vraiment, l'emploi n'est que souvent que marginalement rémunérateur.
La difficulté, c'est que quand vous avez un cumul d'aides, notamment l'aide aux parents isolés...
Vous voulez dire qu'on gagne plus avec les aides qu'avec un emploi?
Vous n'avez pas assez d'incitation à revenir à l'emploi. Alors c'est toute la question de la prime d'activité là, qui a été discutée dernièrement. Mais je pense que plutôt que de vouloir rajouter une prime d'activité, de se poser la question de comment inciter au retour à l'emploi, il faudrait aussi se poser la question du cumul des aides et de pourquoi elles peuvent être dissuasives à la reprise d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, sur toute la France, on a 80 milliards d'aides en complément de revenus, c'est-à-dire sous critères de ressources qui sont distribués. Et c'est quand même un montant très important. Et la plupart des pays, quand ils ont voulu incité plus au retour à l'emploi, ils ont baissé les montants de ces aides. Ils les ont recentrés sur ceux qui en avaient le plus besoin. Ils les ont plafonnés, ils les ont rendus imposables. Donc, ils sont rentrés dans une plus grande transparence. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, et personne ne peut vous dire en France, quel est le total des aides cumulables sur un foyer. Voilà. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a aucun chiffre. Notamment parce qu'elles sont versées par différents organismes. Et ça, c'est très dommageable, parce que finalement, on imagine tout et son contraire. Si on avait une vraie transparence sur ce sujet, si c'était imposable, ça rentrerait dans des statistiques qu'on pourrait avoir, ne serait-ce qu'au niveau de Bercy, et on pourrait faire des simulations, on pourrait avoir une meilleure information. Aujourd'hui, il n'y a pas d'information sur ce sujet. Et je pense que à un moment, il faudra se poser cette question. C'est pour ça que je parle d'un référendum, parce que à combien les Français sont prêts à aider ? C'est normal d'aider ceux qui sont dans la difficulté, mais jusqu'à quel montant ? Par mois et par foyer. Et ça, je crois que c'est un sujet qui va venir sur la table dans les prochaines années. Ça commence à sortir déjà. Et c'est la question de l'incitation au travail.
Comment sortons-nous de ce blocage ? Vous l'expliquez d'ailleurs.
On en sort aussi en travaillant sur la question de l'offre raisonnable d'emploi, par exemple. Évidemment, les Allemands, ils ont une vision assez stricte des choses. Hein, quand ils ont fait les réformes de l'agenda 2010 avec Schröder, avec Peter Hartz, qui était l'ancien DRH de Volkswagen, ils ne sont pas allés par quatre chemins. Ils ont dit, oui, on va suivre les demandeurs d'emploi, on va les former, on va les accompagner. Mais en même temps, en face, s'ils refusent des offres d'emploi, on leur supprimera une partie de leurs aides. On leur supprimera une partie du chômage. Si ensuite ils sont dans des aides, on leur supprimera les aides. Enfin, donc là, il y a eu une véritable incitation. Nous, on a voté quelque chose qui s'appelle l'offre raisonnable d'emploi. On l'a voté sous le précédent gouvernement. Et moi, j'ai essayé d'avoir des statistiques sur combien de personnes étaient radiées pour avoir refusé deux offres raisonnables d'emploi. Et quand je dis radiées, c'est radiées pendant 15 jours. Après, vous récupérez vos droits de la même manière. Il n'y a aucune imputation des droits. Et on m'a répondu que ce n'était pas appliqué. Alors, je dis, ah bon, mais pourquoi ? Mais parce que comme il y a beaucoup de chômage, ce serait quand même très dommage de l'appliquer. Je dis, mais oui, mais ça a été voté au Parlement. Ah bah oui, mais là, c'était vraiment une mauvaise loi. Non. Donc voilà, concrètement, il n'y a pas de statistiques. Il y a des radiations administratives, d'accord, mais il n'y a pas de statistiques sur ces questions. Et pourtant, une offre raisonnable d'emploi, ce n'est pas très contraignant hein, dans la définition. C'est à quelques kilomètres de chez vous, ça doit être à peu près dans les mêmes montants de rémunération par rapport à votre salaire antérieur. Si par exemple vous dites que dans votre offre raisonnable d'emploi vous cherchez un CDI et qu'on vous propose un CDD qui correspond parfaitement, c'est pas considéré comme une offre raisonnable d'emploi, donc ce n'est pas très très contraignant. Il y a eu une étude qui a été faite, et d'ailleurs c'est ressorti il y a pas longtemps, sur la fameuse question du contrôle des chômeurs, et cette étude elle a été faite sur notamment en région PACA, notamment à Manosque. Et j'en parle dans le livre, et on voyait que le résultat, c'est qu'il y avait 20 à 30% des demandeurs d'emploi qui, en fait, ne cherchaient pas. Et ça pose aussi la question du travail dissimulé. C'est des questions qui sont peut-être un peu taboues, mais qu'il faut néanmoins se poser. Et je crois que si on est dans une question d'activation aussi de la demande d'emploi, il faut être capable de se poser la question de l'organisation de Pôle emploi. Parce que est-ce que Pôle emploi est adapté aujourd'hui à l'ampleur du chômage que nous vivons et aussi aux spécificités de chacun ? On a finalement une réponse unique à plusieurs centaines de personnes qui sont suivies par le même conseiller, et lequel conseiller est bien incapable de les aider à trouver un emploi. Seulement 15% des demandeurs d'emploi qui ont retrouvé un emploi, c'est l'enquête emploi de l'INSEE, l'ont retrouvé grâce à Pôle emploi. Hein. Et quand Pôle emploi vous fait des statistiques sur le coût du placement d'un chômeur, ils vous prennent évidemment la totalité de ceux qui ont retrouvé un emploi dans l'année et disent qu'ils sont beaucoup moins chers. Mais évidemment, ils prennent la totalité alors qu'il n'y a que 15% de ce chiffre total qui a retrouvé grâce à Pôle emploi. Donc là, il faut peut-être se poser la question de modifier la gestion de Pôle emploi. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui est vraiment au cœur du réacteur de Pôle emploi et avec qui on était totalement d'accord. Il y a à un moment, on ne peut pas tout gérer par Pôle emploi. Il faudra faire peut-être des contrats de délégation de services publics. Ça a déjà été fait avec des opérateurs privés de placement, mais avec des gens qui sont spécialisés. Ce qui marche bien aujourd'hui, bah, c'est aussi l'intérim, parce qu'ils ont une certaine spécialité sur certains secteurs. C'est aussi les boîtes de recrutement. On voit aujourd'hui même qu'il y a des méthodes alternatives pour trouver des emplois qui sont Le Bon Coin ou d'autres sites internet. Et les gens s'organisent, parce qu'il faut être plus spécialisé, et plus spécialisé aussi au niveau des territoires, mais par filière. C'est pas la même personne qui peut conseiller quelqu'un pour être attaché de presse ou pour être chauffeur-livreur ou pour être tourneur-fraiseur. Ce sont pas les mêmes compétences. Donc là, il y a une vraie question. Ensuite, il y a une question entrepreneuriale. Vous pouvez pas dire aux chômeurs c'est scandaleux de pas retrouver un emploi si on ne fait pas tout pour créer la dynamique et l'écosystème pour créer des entreprises. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on fait rien pour. Toute la fiscalité qu'on a créée, que j'ai évoquée tout à l'heure,
freine la création d'entreprise.
Et notamment la fiscalité du patrimoine. Je pense que c'est très important de le dire. Ce n'est pas la BPI, la Banque publique d'investissement, qui va pouvoir financer toutes les TPE.
Et la majorité des entreprises qui se créent ne sont pas, vous le dites quelque part dans le livre, je ne sais plus en quel chapitre, ne sont pas des employeuses.
Non. En plus, ça chute. Ça chute, et là, au premier trimestre 2015, ça a encore plus chuté que d'habitude. Là, on a perdu encore 0,9% de création d'entreprises au premier trimestre. Et si on crée 500 000 entreprises à peu près par an, dans les 500 000, il y a quelques années, il y en avait 40 000 qui créaient au moins un emploi en plus du créateur. Et maintenant, on est à 26 000. On n'arrête pas de chuter. Oui. Et nos partenaires européens, ils sont, eux, à 120 000 par an. Et ils ont une force ascensionnelle de croissance, c'est-à-dire qu'ils vont créer des emplois beaucoup plus vite que nous. Là où nous, dans quelques années, la jeune entreprise qui va être créée avec un emploi, au bout de 5 ou 6 ans, elle va en avoir 3 ou 4, les Britanniques ou les Allemands, ils vont être à 15. Hein. Et donc, ils ont des entreprises de croissance beaucoup plus fortes que les nôtres. Mais ça s'explique. Pourquoi ? Et bien sûr, ils n'ont pas notre code du travail. Bon, ça, c'est clair. Mais en plus, ils ont une fiscalité qui incite ceux qui ont les moyens à investir dans les projets des jeunes. C'est ça aussi la logique de solidarité entre générations. C'est-à-dire que ceux qui ont l'argent investissent dans les projets de start-up, de jeunes entreprises, de petites entreprises. C'est celles qui créent l'emploi. On le sait, c'est dans les TPE, dans les PME qu'on embauche. Là, le gouvernement, il vient juste de le réaliser. Mais c'est dingue. On sait très bien que c'est ces boîtes-là qui créent l'emploi dans tous les pays. Hein. Il y a que chez nous qu'on n'avait pas compris qu'en créant le CICE, on ne ferait que maintenir l'emploi existant. C'était d'ailleurs ce qu'avait dit le MEDEF à l'époque, hein, en disant « on pourra maintenir l'emploi, on ne pourra sûrement pas créer autant d'emplois que ça avec le CICE ». Pour créer l'emploi, il faut créer une dynamique fiscale, et surtout dans un pays hyper fiscalisé comme la France. C'est pour ça qu'à la Fondation IFRAP, on s'est battu pour créer l'ISF PME, qui a permis de déduire de son ISF à payer les investissements dans une PME, mais ce n'est pas encore à la hauteur. Parce que là où les Britanniques, ils ont 1 million de livres à investir potentiellement par couple, déductible à 30%, et après 3 ans quand ils restent au capital pendant 3 ans, ils n'ont pas de plus-value de cession à payer. C'est-à-dire s'ils cèdent leur part, pas de plus-value. Ça, c'est hyper incitatif, vous voyez. Nous, on s'entête à faire des plus-values, à faire payer des plus-values, avoir une taxation sur les plus-values de cession sur les petites boîtes, alors que ça ne rapporte rien au trésor. Je n'ai même pas réussi à savoir combien ça rapportait. Je pense que c'est vraiment, vraiment un chiffre très peu conséquent. Mais on est dans l'idéologie. On est dans l'idée qu'il faut absolument taxer les plus-values. Alors que celui qui risque son argent, c'est l'impôt-risque aussi, celui qui risque son argent, il doit pouvoir, à la fin, se dire qu'il peut avoir un espoir de gain. Parce qu'une fois sur trois, il va perdre, ou deux fois sur trois, il va perdre sa mise.
Pardon Agnès, c'est passionnant, mais je vois le temps qui passe et je voudrais que la salle ait le temps de vous poser aussi quelques questions. Je voudrais qu'on dise deux mots très rapides avant de justement donner la parole à la salle sur la gabegie de l'éducation et sur les élus. Voilà, alors l'éducation, allons-y, 915 138 enseignants.
C'est ça, hein, mais personne ne s'est jamais d'accord sur les
chiffres. Qui ne sont pas tous quand même dans des classes. Hein. Vous m'avez dit ça tout à l'heure, j'ai été estomaqué. Moi.
Quand on regarde les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, on a beaucoup de professeurs qui sont en fait détachés en dehors de leur ministère. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, Le chiffre, il est d'environ 95 000, hein, mais c'est quand même un chiffre assez important. Et donc, là, c'est vrai que ce sujet de l'éducation, moi, je pense qu'il est fondamental, parce que l'éducation, c'est un sujet qui nous concerne absolument tous.
Et puis, c'est l'avenir du pays.
C'est l'avenir, et c'est là qu'on donnera envie, justement, à nos jeunes d'entreprendre, de créer, de prendre des risques, d'innover, d'embaucher, etc. Et ce que je constate, c'est que, d'abord, il n'y a pas de responsable de l'éducation en France. Il y a l'État qui embauche les professeurs, et donc les professeurs sont des fonctionnaires d'État. Il y a les communes qui s'occupent des écoles primaires et des maternelles. Il y a les départements qui s'occupent des collèges. Vous avez vu qu'avec la réforme territoriale, on a essayé de regrouper la gestion des collèges et des lycées au même niveau, au niveau de la région, et ça n'a pas marché, ça a échoué. Hein, notamment, c'est le Sénat qui a bloqué là-dessus pour ne pas perdre de prérogatives et de compétences du département. Mais résultat, on continue à avoir à la fois les communes, les départements, les régions, l'État et les académies, qui sont les services déconcentrés de l'État, qui s'occupent d'éducation. Finalement, on est perdu, parce qu'on n'a même pas, pour, ne serait-ce que pour un collège ou un lycée, un budget total de ce qui est dépensé par établissement. Ça n'existe pas. Quand vous demandez ça, quand vous demandez par exemple la masse salariale par établissement, on vous répond que ça n'existe pas. Là, je viens d'en faire encore l'expérience au niveau de la DEP. La DEP, c'est la direction des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Donc là, il y a un vrai, vrai sujet, c'est qui est responsable de l'éducation ? Moi, je pense qu'il faut gérer ça au niveau local. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir une gestion de l'éducation.
Les programmes pour l'État, la gestion pour les communes.
Alors, continuer à avoir des programmes et des concours qui sont comme le font les Allemands, ça se décide au niveau fédéral. Mais ensuite, que ce soit les régions et les communes qui gèrent cette question de l'éducation, qui décident aussi, par exemple, on l'a vu sur les questions des classes bilangues, des options grec et latin ces derniers temps. Si en Alsace, ils ont envie, au niveau de la région Alsace et Lorraine bientôt, ils ont envie de gérer leurs écoles avec énormément de classes bilangues parce qu'ils sont près de la frontière et parce que tout le monde a besoin de parler allemand, eh ben, très bien qu'ils le fassent. Il faut plus de diversité et de possibilités de gérer différemment l'école. L'école, elle est finalement aujourd'hui dans un espèce de corset où personne n'est vraiment responsable de la qualité. Les parents ne savent plus à quel sein se vouer pour... quand ils ont en face d'eux une équipe pédagogique qui se délite, et c'est le cas dans beaucoup d'établissements. Et je crois que gérer au niveau local, comme le font les Allemands et les Britanniques, ce serait beaucoup plus sain. Ça permettrait aussi d'expérimenter, de donner de l'autonomie, de permettre au chef d'établissement de recruter lui-même son équipe. Il faut quand même savoir qu'un chef d'établissement dans un établissement public, il a très peu de marge de manœuvre. Il ne peut pas choisir ses profs. Il ne peut pas y avoir de véritable gestion de l'équipe, parce que le supérieur d'un professeur, souvent, quand on lui demande, ce n'est pas son chef d'établissement, c'est le ministre. Hein. Donc là, on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe dans l'enseignement privé sous contrat. C'est ce que nous, on a montré dans pas mal d'études. Hein. Ça coûte moins cher et c'est mieux géré. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand on compare sur le coût enseignement premier, second degré, France, Allemagne, Grande-Bretagne, il y a 30 milliards d'écart. Quand on compare le coût de l'enseignement privé sous contrat et de l'enseignement public, si on appliquait les coûts du privé sous contrat au public, c'est 20 milliards d'euros d'écart. Et ça, tous ceux qui connaissent l'éducation le savent, à la Cour des comptes, au ministère. Il y a un énorme travail à faire sur ce sujet, et ça passe par plus de liberté, plus de gestion alternative, plus de gestion locale. Et sur les élus, évidemment, là on est aussi champion sur le nombre d'élus.
Alors 600 000 élus.
618 384.
Est-ce que vous croyez qu'à un moment, un jour, les sénateurs vont voter leur décapitation?
Je pense que si, à un moment, on pourrait demander aux Français ce qu'ils en pensent.
Ou est-ce qu'il faut appliquer le 49-3?
Le 49-3, il a des beaux jours devant lui, hein, on le voit aujourd'hui. Et on aime bien faire la navette, hein, entre l'Assemblée et le Sénat, mais juste pour rire. Mais
on peut passer de combien à combien? Parce que vous faites une proposition, j'ai plus les chiffres sous la tête.
55 000.
Voilà, on passe de 600 000 à 55 000.
Ouais. Moi, j'y crois.
Et c'est réaliste.
Ouais.
C'est faisable.
Oui, pourquoi? Parce que Tous nos voisins, ils n'ont pas du tout 618 384 élus. Hein. Nous, on a un élu pour 104 habitants. Les Britanniques ont un élu pour 2600 habitants. Vous voyez ? Donc même avec 55 000 élus, on en aurait encore deux fois plus que les Britanniques.
Oui, mais dites-moi, la loi sur le contre le cumul des mandats, ça va encore augmenter nombre des,
oui.
des...
Mais vous savez qu'au départemental, on a quand même réalisé un exploit. On a réduit par deux le nombre de cantons et on a augmenté le nombre d'élus. Hein ? Donc on a moins de cantons, on avait 4054 élus, on est passé à 4108. Donc... Ce qui s'est passé avec les intercommunalités, avec la création des régions, c'est en fait qu'on a choisi de créer des strates intermédiaires, mais on n'a pas choisi de réduire le nombre de strates qui existaient déjà. Donc on a une espèce de tenaille, région interco, qui a été créée finalement il n'y a pas si longtemps, qui se retrouve face à face avec le couple commune-département, qui est le couple historique. À un moment, il va falloir choisir. On ne peut pas garder à la fois les communes, les intercommunalités, bientôt les communes nouvelles, hein, que nous annonce l'Association des maires de France, tout en gardant les communes anciennes, tout en gardant les intercos, les métropoles, les régions, les départements. Ce n'est plus un millefeuille, c'est un millefeuille géant. Donc, tous les pays ont deux, trois strates locales. Nous, on en a déjà quatre et on risque d'en créer encore. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a 40% des collectivités de l'Union européenne, alors qu'on a 12% du nombre d'habitants, hein, y a une vraie question. Et je crois qu'on peut réduire le nombre de communes en les fusionnant avec les intercommunalités, parce que le problème des intercos, c'est qu'elles ont pris quand même beaucoup de pouvoir et qu'elles ne sont pas tellement démocratiques. Qui suit en tant que citoyen ce qui se passe au niveau de son interco ? Personne. Pas grand monde. Vous, monsieur. D'accord. Ben, bravo, je vous félicite. Vous, madame, bravo aussi.
Bon, très bien.
Il y a deux personnes dans cette salle qui suivent ce qui se passe au niveau de l'interco. Eh bien, c'est remarquable. Il faut continuer parce que c'est là aussi qu'on peut avoir des dépenses qui se font au niveau culturel, etc., qui sont au niveau des piscines, des équipements sportifs et tout. On trouve parfois des trucs complètement hallucinants.
Bien. Merci. On vous écouterait encore très longtemps et toute la soirée.